Bonjour, bonjour à tous. L'émission d'aujourd'hui a été préparée par Alice Ramon, Inès Duperron et Romain de Bec de Lièvre. À la réalisation, Véronique Villa. Les recherches musicales sont faites par Michael Simon. À la prise de son, Jean Frédérics.
I turn on my computer. I go online.
Welcome.
And my breath catches in my chest until I hear three little words.
You got mail.
What they don't realize is they already have.
Joe Fox, I'm in the book business.
I am in the book business. What should I have said? The man who has made my professional life a misery.
Hey, how do you sleep at night?
Ils s'écrivirent des mails et tombèrent amoureux. Le film de Nora Ephron, Vous avez un message, sorti en 1998, illustrait déjà les possibilités de l'écriture en ligne, l'échange épistolaire et l'intégralité du champ de l'écriture accueilli par un nouveau support qui s'offre à tous comme une page vierge infinie. Il est 14h sur France Culture et les nouvelles vagues donnent la parole à tous ceux qui, derrière leur écran, sont pris par la rage d'écrire. Et c'est les yeux rivés sur l'écran que nous continuons cette semaine consacrée à écrire. Comme chaque jour, à 14h50, une histoire d'écriture vous sera racontée. L'écrivain et historien Bruno Fulini vous fera aujourd'hui le récit des cahiers d'Alexis Trinquet, communard envoyé au bagne.
Lui qui est une forte tête, un cordonnier, ce qu'on appelait un bouif, quelqu'un qui pense mal, quelqu'un qui est mauvaise tête, eh bien il va essayer de résister. Et une des formes de résistance, finalement, ce sera l'écriture.
L'histoire d'Alexis Trinquet que vous découvrirez à 14h50. Nous suivons toujours les chemins de l'écriture et les nouvelles voies qui lui sont offertes. L'écriture dont le geste a suivi l'histoire des techniques et des technologies a tout naturellement atterri derrière nos écrans. Aux côtés des autres arts, en partie eux aussi dématérialisés, on trouve à portée de souris la bibliothèque du monde entier. Un savoir, des créations qui ne cessent de s'enrichir et d'être versées au pot commun, puisque la toile est devenue un éditeur universel. Pour en parler aujourd'hui, nous avons Oriane de Céligny. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chercheuse et maître de conférences à l'Université Paris 13 en sciences de l'information et de la communication. Oui. À côté de vous et de l'autre côté de la table, Guillaume Vissac, bonjour.
Bonjour.
Vous travaillez sur l'écriture aussi en tant que jeune auteur. Vous publiez et vous êtes aussi éditeur. Vous faites partie d'une coopérative d'auteurs et d'éditeurs qui s'appelle Publi.net. Bonjour à tous les deux. D'abord, pour parler de l'écriture en ligne, il faut peut-être raconter cette histoire des techniques qui a fait que finalement, l'écriture technique, c'est une forme de continuité avec ce qui a pu se passer avant. Oriane Essény.
Oui, l'écriture technique au sens où, effectivement, l'écriture sait se saisir de différents supports depuis très longtemps il est donc assez naturel qu'elle emprunte des voies et qu'elle teste différentes choses. Ce qui a pu apparaître au début d'Internet comme des pratiques un petit peu paradoxales, qui a pu susciter un peu d'incompréhension, finalement, ne l'ont peut-être pas été tant que ça. Et ce qui nous apparaît aujourd'hui comme des pratiques sur les réseaux sociaux, comme des formes de mise en scène de soi, peuvent trouver des éléments d'explication dans une histoire longue de l'écriture de soi, en fait.
Alors, ce qu'on comprend, c'est que cette histoire, elle s'est faite par étapes et qu'au début, elle a nourri tout un tas de frayeurs.
L'écran, pour beaucoup d'écrivains de la génération des plus jeunes, c'est-à-dire ceux qui ont entre 20 et 30 ans, est un outil d'écriture, exactement comme le stylo et le papier. Donc, chacun trouve sa façon d'écrire. Vous savez, entre l'écrit, le stylo, l'encre et le papier, le prolongement sans changement de nature, ça peut être la souris, l'écran lumineux et les pixels à la place de l'encre. Mais l'écriture doit garder sa force, ça ne change rien.
Alors, on entend justement au micro de Jacques Chancel, Joël de René, qui raconte, qui dit non, l'écriture ne va pas disparaître. On en était là au début, à cette peur-là.
Oui, on en était là parce que le support et l'ordinateur puis l'ordinateur relié à Internet tranchait énormément par rapport au rapport corporel du stylo avec le papier, et même la machine à écrire auparavant était déjà une rupture, et ça a été beaucoup théorisé, beaucoup débattu, la rupture qu'introduisait toutes sortes de machines dans le rapport à l'écriture, quelle qu'elle soit et quel que soit le genre de de l'écriture. Beaucoup d'écrivains ont eu peur des machines pour écrire.
Guillaume Vissac, ce qu'on a observé, c'est que au fur et à mesure, il y a eu une appropriation assez progressive d'Internet par les écrivains, mais par aussi tout un chacun qui a souhaité écrire. Vous, comment est-ce qu'elle est née, cette pulsion d'écrire ?
Alors, l'envie d'écrire, elle vient d'abord, je pense, en tout cas pour ma part, d'un geste de lecture. Et elle est prolongée, c'est un geste qui va prolonger la lecture. On devient d'abord
un
grand lecteur avant d'avoir cette envie-là. Et de faire de conjuguer cette envie d'écrire avec des nouvelles possibilités de médiation, de partage des textes et de création. En tout cas, moi, pour ma part, c'est venu assez naturellement parce que ça fait des années tout simplement que je bricole des sites web plus ou moins dans mon coin. Et donc c'était assez naturel au bout d'un moment d'articuler cette construction-là, ce travail-là, avec l'écriture créative, avec le travail littéraire.
Guillaume Vissac, une des questions qu'on se pose, c'est la question de l'importance du support. Est-ce que pour vous, il a toujours été question d'écrire d'abord sur un ordinateur, avant d'écrire tout de suite en ligne ? Est-ce que vous avez déjà eu une pratique d'écriture à la main, autre que scolaire, j'ai envie de dire ?
Alors, en tout cas pour ma part, je suis vraiment d'une génération qui a grandi avec l'ordinateur et donc qui n'a pas vraiment connu, comme peut-être certains autres auteurs, le passage de l'écriture manuscrite à l'écriture sur une machine. Après, j'ai une expérience paradoxalement plus tard de l'écriture manuscrite, tout simplement parce que la pratique de l'ordinateur, la pratique des écrans, rend du fait d'une fatigue visuelle assez prononcée, rend difficile le fait de passer ses journées et ses nuits sur un écran. Donc par contrainte physique, j'en suis venu à écrire un peu plus de façon manuscrite. Ouais.
De faire le chemin dans l'autre sens.
Dans l'autre sens.
Oriane Desseigny, on sait, il y a eu d'ailleurs des travaux de recherche à ce sujet, que le passage de l'écriture manuscrite à l'écriture tapée, que ce soit sur machine puis sur écran, a changé les procédés d'écriture. C'est-à-dire, il peut y avoir le plaisir d'enchaîner deux touches d'affilée qui donnent envie d'utiliser plus certains mots. Il y a la différence, j'ai envie de dire, charnelle, matérielle, avec le support.
Ah oui, il y a eu beaucoup de travaux là-dessus. Spontanément, là, je pense par exemple à Nietzsche qui expliquait que, enfin, un de ses amis expliquait que le passage de l'écriture manuscrite à l'écriture à la machine à écrire avait fondamentalement transformé son style, en fait, et qui s'était dirigé de plus en plus vers une forme aphoristique. Donc,
c'est le plaisir sensuel de l'objet qui a changé les procédés créatifs ou qui a influé sur les procédés créatifs?
Alors, on a tendance à associer le plaisir sensuel à la main directement liée, je dirais, au stylo, mais d'autres effectivement éprouvent une certaine sensualité aussi à écrire au clavier, à être rapproché en fait de l'écran. La médiation est parfois vécue comme une contrainte et parfois vécue comme justement un moyen de trouver d'autres formes d'écriture, de formes narratives créatives. Oui, effectivement.
C'est ça qui est important, je pense, quand on aborde ces questions du numérique, c'est de voir qu'il n'y a pas un événement qui s'appellerait livre numérique, et puis c'est vrai que tout ce qui est ce métier traditionnel du livre, ou un certain état stable du livre, de toute façon traverse une secousse ou une transition de fond qui a changé la totalité de ses paramètres. Par exemple, la notion de tirage, ça fait effectivement 10 ans qu'elle est plus effective, qu'on travaille à flux tendu, et ça aussi c'est des choses de technologie, c'est-à-dire à chaque génération de machines qui arrive dans les imprimeries, il y a des réactions comme ça en retour sur même la manière de concevoir le com. Par exemple, je me souviens de Jérôme Lindon, c'est 90, sur un essai sur Rabelais, et donc je lui dis, mais vous voulez la disquette, c'est-à-dire parce qu'à l'époque, on donnait vraiment des choses tapées à la machine, ou une sortie imprimante, et qui était recomposée. Et là, il m'avait sorti, et la littérature Macintosh. Et puis, 48 heures après, coup de téléphone, j'ai discuté avec l'imprimeur, envoyez-moi quand même la disquette. Bon, donc, Là, il y a une histoire. Et je pense que cette histoire même de la mutation des livres papier, elle va encore s'accentuer dans les deux ans à venir. Par exemple, avec le print on demand et tous ces trucs-là. C'est passionnant à suivre.
Ariane de Cellini, on entend bon, avec un certain plaisir le mot disquette qu'on n'entend plus. On voit que l'histoire de l'évolution des techniques, elle touche autant le monde de l'édition, la question du tirage, la question des métiers du livre, que la question des créateurs et des écrivains.
Oui, tout à fait. Enfin, tout ce qu'on appelle la chaîne du livre, c'est contesté, mais est touché par ces mutations technologiques et conduisent à repenser les méthodes de fabrique, de création, de fabrication du livre d'une manière générale. Effectivement, le rapport au texte, il change et il change pour tout le monde, depuis le lecteur jusqu'à l'écrivain, en passant par l'éditeur, qui n'a plus les mêmes contraintes qu'avant. Et on parle souvent de dématérialisation pour évoquer tout cela. C'est, à mon sens, assez un petit peu à côté de toute la matérialité nouvelle que recrée notamment le numérique, parce qu'il y a des contraintes qui disparaissent et d'autres contraintes qui peuvent surgir dans ce contexte-là.
Guillaume Vissac, est-ce que vous pourriez nous parler de ces contraintes pratiques ? Vous avez décidé d'écrire notamment parce que vous faisiez 2-3 heures de transport par jour et que vous avez pu utiliser ce temps à écrire, notamment parce que vous aviez un outil qui était le téléphone dans vos mains.
Oui, bah c'est vrai que le fait d'avoir de nouveaux outils et de nouvelles possibilités, c'est-à-dire qu'au-delà de l'outil, ça va être aussi quel genre d'application on va pouvoir avoir effectivement sur un téléphone, sur un smartphone, qui va permettre d'avoir un texte qui s'écrit sur le téléphone, qu'on va pouvoir retrouver via le cloud, par exemple, sur une autre application, sur un autre support, sur un autre outil.
C'est le texte qu'on ne peut pas perdre. C'est le bout de papier qu'on écrirait dans le RER qu'on ne peut pas froisser, déchirer, perdre.
Oui, c'est ça. Et puis, c'est un texte qui va avoir plusieurs formes au fur et à mesure de sa conception, qui pourra effectivement être sous la forme d'un post-it ou d'un timbre-poste, une note télégraphique qu'on va prendre comme ça. C'est effectivement ce que j'ai fait pour un livre qui s'appelle Accident de personne, où je prenais des notes dans les transports, dans le RER, dans le métro.
Sous forme de formules courtes,
oui,
fragmentées.
Sous forme de petites notes télégraphiques qui ensuite se sont retrouvées à être propulsées sur Twitter. Elles ont été retravaillées, elles ont été propulsées sur Twitter, elles ont été reprises ensuite quand on a procédé à la compilation pour en faire un livre numérique.
Donc il y avait cette contrainte de caractère, de nombre de caractères ?
Oui, il y avait la contrainte en tout cas de la brièveté. Pendant l'écriture des notes, c'était pas aussi clair que ça, parce que j'ai pas écrit directement sur Twitter. Mais ensuite, ça a été retravaillé pour pouvoir supporter la contrainte la contrainte de brièveté des 140 caractères.
Oriane de Cenny, on voit que Internet a été approprié par les auteurs, plutôt que les auteurs se sont appropriés Internet de manière progressive. Soit les auteurs qui, comme justement François Bon, qu'on entendait parler des supports, parce qu'ils ont décidé qu'ils pouvaient écrire là-bas aussi, et exister autrement sur la toile, soit parce que, à l'inverse, Internet a permis à certains d'écrire, certains qui peut-être n'auraient pas touché les maisons d'édition.
Oui, alors effectivement, à partir du moment où sont apparus des outils qui permettaient d'écrire facilement et surtout de publier facilement des contenus, ça a permis à beaucoup de gens de partager ce qu'ils écrivaient là où ils ne l'auraient peut-être pas fait auparavant, et qu'on écrive sur un blog ou qu'on s'auto-édite ou qu'on passe par une maison d'édition numérique, effectivement l'environnement numérique permet toutes sortes de pratiques d'écriture avec des publics plus ou moins différents, mais ça offre effectivement tout un panel de destinataires, de publics, de lecteurs, pour différents types d'auteurs aussi.
Alors racontez-nous le chemin. Il y a eu le site personnel, le blog, les réseaux. Comment est-ce que ça s'est déroulé, cette évolution de l'écriture en ligne ?
Alors, c'est même Internet a une vingtaine d'années, un peu moins d'une vingtaine d'années, mais il s'est passé beaucoup de choses effectivement dans ce laps de temps. On a tendance aujourd'hui à oublier un petit peu la première période d'Internet, qui serait celle avant l'apparition des blogs, avant l'apparition a fortiori des réseaux sociaux, donc avant 2003-2004, hein, grosso modo. Et pourtant, c'est une période qui a été très importante parce que c'est une période dans laquelle au cours de laquelle effectivement François Bon et un certain nombre d'autres auteurs ont commencé à s'approprier cet outil-là.
François Bon, avant-gardiste hein, dans le
François
domaine.
François Bon, hein. Complètement avant-gardiste, mais je crois qu'il aime pas qu'on le dise, mais c'est quand même la réalité. Mais effectivement, ça a permis à un certain nombre d'auteurs de s'exprimer. Alors, c'est vrai que avant 2003, pour publier un contenu en ligne, pour publier des textes, de la poésie, un roman, pour publier un journal intime, il fallait coder soi-même ses pages. Et ça représentait quand même beaucoup de contraintes. Enfin, ça supposait un réel investissement, ça supposait d'apprendre à coder, de le vouloir et d'y passer du temps. Alors, on était très loin de l'ergonomie web d'aujourd'hui.
Mais... vous parlez de compétences numériques de l'écrivain. Sûr. C'est-à-dire qu'il fallait être un auteur capable de se saisir de ses outils.
Bien sûr. Oui,
et
oui,
de
oui.
Coder.
Il fallait être, pour, à certains égards, un peu informaticien, oui. Ou en tout cas... accepter de passer du temps et de plonger dans le code HTML, effectivement. Et ça, ça a disparu. Ça a été remanié avec l'apparition des blogs qui ont permis à beaucoup de gens, en trois clics ou à peu près trois, d'avoir un site. Alors avec ses contraintes, avec ses prescriptions, avec son formatage, mais... voilà, un site qui était là et en tout cas un moule à texte, comme disent certains chercheurs, un moule à texte dans lequel après on pouvait mettre à peu près ce qu'on voulait.
Après les sites, il y a eu les blogs comme justement qui ont été aussi un espace d'écriture, de publication. Guillaume Bissac, est-ce que vous étiez, puisque vous étiez lecteur avant d'être auteur, est-ce que vous étiez un lecteur de blog, est-ce que vous étiez un grand lecteur en ligne?
Oui, alors sous des formes peut-être moins d'écriture créative, c'est-à-dire que il y a eu pas mal de sites de critiques littéraires qui ont commencé à apparaître, qui ont pu se démarquer un petit peu peut-être de la presse dite traditionnelle, où voilà tout un chacun pouvait se saisir d'un espace. Pour dire j'ai aimé tel livre pour telle et telle et telle raison, je le rapproche de tel et tel autre. Après, pour rebondir sur ce qui a été dit, c'est vrai que c'est très intéressant maintenant que n'importe qui puisse se saisir d'un outil standardisé qui existe déjà pour pouvoir avoir un espace à soi, pour reprendre la formule de Virginia Woolf. C'est important pour un auteur d'avoir un espace à soi. C'est un peu dommage que on est un peu coupé avec cette période-là, justement, de l'avant-blog, avant-réseaux sociaux, où bah, pour pouvoir disposer de cet espace-là, il fallait mettre les mains dans le cambouis. Et du coup, ça permettait aussi de faire des choses, des objets web plus personnels. Alors, il en reste encore. Bon, je pense, par exemple, au Désordre de Philippe de Jonquière, qui est vraiment une œuvre web
importante. Alors ça, on peut peut-être rentrer dans les détails et décrire la dimension visuelle, la typographie, les choix de mise en scène, justement, de l'écriture. Même d'un point de vue visuel, qui rappelle des écoles d'écriture, des écoles littéraires.
Alors aujourd'hui, on se retrouve à avoir des formes qui sont en fait assez standardisées sur les sites qui sont utilisés et qui sont alors qui peuvent être très design, qui peuvent être très attractives, mais qui reprennent en fait un peu toujours le même genre d'architecture.
Vous pouvez nous les décrire?
Alors bah par exemple, ça va être dans le cadre des sites WordPress par exemple, on va avoir souvent le même genre de présentation, on va avoir une recherche surtout sur le visuel, sur la photo, avec de grandes photos en accueil, et ensuite on va pouvoir glisser un peu plus bas, verticalement dans la page. Du coup, c'est un peu dommage parce que j'ai l'impression maintenant que les sites se ressemblent beaucoup et qu'il y a peut-être moins de recherches à ce niveau-là. Alors que, voilà, pour reprendre l'exemple du site du Désordre de Philippe de Jonquière, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement personnel qui n'existe nulle part ailleurs et qui a une forme véritablement singulière. Mais ça, c'est rendu possible parce que c'est vraiment codé De façon personnelle. C'est vraiment quelque chose qui a été développé par l'auteur.
Brian Decenni, on a justement cette impression que si Internet a offert un espace de liberté au départ, puisque voilà, il n'existait rien, donc écrire sur la toile, ça a été un phénomène un peu sauvage. À partir du moment où les sites ont commencé à se standardiser, où les formes ont commencé à se standardiser, alors la recherche en écriture, se saisir de ce nouveau support pour faire évoluer les processus d'écriture, on a l'impression que finalement cette quête, elle est un peu plus tombée. En tout cas, elle est, voilà.
Oui, parce que, enfin, peut-être, effectivement, peut-être parce que désormais, il y avait beaucoup de discours d'accompagnement médiatique mettaient l'accent sur la relation avec les lecteurs, sur la disparition ou l'écrasement de la figure de l'éditeur éventuellement, et un contact renouvelé ou nouveau, censé être nouveau, avec les lecteurs, et donc la joie de pouvoir peut-être avoir un autre type de contact avec les lecteurs via la médiation numérique a mis de côté, et puis la facilité aussi de publication a mis de côté peut-être ces recherches au niveau de l'outil.
Heureusement, les logiciels évoluent, les possibilités évoluent, et donc comme la technique court derrière, il y a cette possibilité de recréer grâce aux nouveaux éléments techniques. Et vous, Guillaume Bissac, vous avez utilisé notamment les possibilités transmédia pour faire des choses différentes de vos textes. On va en entendre un qui s'appelle « À crâne fendre ».
Ma bouche. D'abord, un lent apprentissage... du silence.
C'est loin, c'est proche.
Il fallait qu'une bouche soit celle des silences.
De la distorsion des sons. C'est les deux.
Sans mettre un mot, dira alors celle qui ne parlait pas.
Dans le noir, tu sais pas qui les mains, qui l'angule de l'épaule.
Puis ensuite, il fallut qu'une bouche soit celle de l'absence de tout souffle à soi.
Pour se parler dans l'ombre et au silence, c'est quelque chose qui passe par l'œil.
Longtemps, j'appris auprès d'un crâne celui d'une femme, une sourcière au seuil d'une nuit en chute libre.
J'ai envie de boire un mot à cette bouche.
Nuit qui le plus souvent tombait dans une gorge là, où le pouf n'est encore qu'une cadence.
La verbalisation.
Je ne savais jamais où la rencontrer ce crâne,
les artères du cou,
ni où j'allais oser savoir aller à l'aube de son sillage.
Guillaume Bissac, vous nous racontez ce qu'on entend ?
Alors ça, c'est une création en fait qui a été pensée d'abord pour une performance dans le cadre du festival Incipit, enfin le micro festival Incipit qui s'est tenu fin janvier à Paris. Alors le but c'était d'écrire des textes en écho qui auraient pu être écrits par Joseph Ignace Guillotin, celui qu'on prend pour l'inventeur de la guillotine. Sur la question des supports, effectivement, ce qui moi m'intéresse, c'est tout le champ des possibilités qui s'ouvre en fonction d'un support. C'est-à-dire que là, on m'a invité à dire un texte. J'avais envie de travailler avec le son, et il se trouve que le texte que j'ai écrit pour cet événement-là, c'est un texte à deux voix qui s'est propagé. Et donc, pour pouvoir lire ce texte à deux voix, il a fallu que j'enregistre d'abord la première voix, puis que je dise en direct la deuxième. Donc, pour enregistrer la première voix, j'ai commencé à m'intéresser au son, à faire un travail sur quel peut être l'accompagnement avec, etc., etc. Et ça, c'est assez représentatif de de moi, comment je fonctionne en fonction d'un support, d'un format, d'une technologie, de savoir que voilà, on a telle et telle et telle et telle possibilité, comment est-ce qu'on va les exploiter, comment on va pouvoir aller dans telle ou telle direction, et comment ça va modeler ou en tout cas déformer notre écriture. Ça, c'est un truc qui me booste pas mal. Ouais.
Alors, il y a une décennie, on a le sentiment que les auteurs de la toile, justement, sont comme des plus proches des artistes d'art contemporain, qu'ils se saisissent d'un espace pour faire des textes qui vont être lus, filmés, justement que le champ est très très large.
Oui, le champ est large. Et ben en littérature, le champ est de toute façon est large, quel que soit le médium qu'on choisit.
Ah ben non, le papier permet pas tout ça.
Oui, non. En termes de genre, je parlais effectivement des différents genres qu'on peut adopter. On est dans l'exploration de la vidéo, du son, de ce que tous ces empilements, tous ces agencements permettent. Il y a aussi des auteurs qui en restent à un texte au sens peut-être le plus strict du terme, qui est mis en ligne, qui est donné à partager et qui reste sur une écriture qui est explorée, mais au sens de vraiment de la scription très très classique. Donc effectivement, tout est possible. Certains vont plus vers le transmédia, d'autres plus vers une pratique d'écriture plus textuelle au sens un peu fermé, quoi.
Il me dit ça qu'on a le sentiment que l'écriture en ligne contient sa propre dimension critique, à savoir vous vous amusez depuis 2012 à traduire Ulysse de James Joyce par des procédés qui ressemblent à des traducteurs automatiques, informatiques.
Alors,
comment est-ce que vous faites ?
Non, alors
une phrase par jour.
Ouais, la contrainte c'est de traduire une phrase ou un passage par jour. Donc ça dure effectivement depuis 2012. Le texte étant assez long, ça devrait s'étendre sur une quarantaine d'années. Donc on a encore un peu le temps de voir venir. Mais ce qui est intéressant dans les formes de publication sur le web, c'est qu'on a la possibilité, par exemple, d'inclure le brouillon dans le texte, c'est-à-dire que moi j'utilise un procédé sur ce site-là, sur à peu près tous les sites sur lesquels je travaille, qui permet au lecteur d'accéder, s'il le souhaite, aux révisions, aux corrections qu'il y a pu y avoir sur une page.
Donc premier G, deuxième G.
C'est ça.
Et comment est-ce que vous le traduisez, Ulysse ? Parce qu'on a le sentiment que les mots sont un peu bousculés, qu'on est un peu loin de la traduction officielle.
Alors, c'est une traduction qui est libre, effectivement. Il y a déjà deux traductions canoniques qui existent d'Ulysse et qui ont leur...
Celle de Valérie Larbeau, celle plus récente de 2005.
Il y a une traduction de 1929 d'Auguste Morel, revue par Valérie Larbeau, et il y a une traduction plus récente, effectivement. Il y a une armada de traducteurs qui s'est remis sur ce monument-là. Donc le but, c'est pas de faire une traduction normale, si j'ai envie d'utiliser ce mot-là.
Classique.
Voilà. Le but, c'est de prendre des partis pris qui sont assez forts, c'est-à-dire que mon Ulysse à moi, c'est un Ulysse qui se passe aujourd'hui, donc il est écrit au présent. Il se passe dans la ville de Dublin actuelle, c'est-à-dire qu'il y a une possibilité de faire intervenir la carte. Et que ça va rentrer dans le champ créatif, c'est-à-dire que on va suivre les déambulations de tels personnages dans le Dublin bien réel d'aujourd'hui, et on va se rendre compte que la géographie a changé par rapport à l'Ulysse de l'époque, et donc il faut adapter le texte en conséquence. Par exemple, s'il y a un passage en voiture de telle rue à telle autre, s'il y a une rue en sens unique, on ne peut pas l'emprunter de la même façon, donc on ne va pas passer au même endroit.
Mais d'un point de vue technique, est-ce que vous utilisez des outils de traduction virtuelle ?
Non, c'est purement mon travail à moi. Je me réfère beaucoup au travail critique qu'il y a pu y avoir autour du livre, aux autres traductions évidemment pour voir dans quel sens ça va. Mais j'utilise pas de Google Translate par exemple, comme il y a certaines expériences de traduction qui sont parties de là et qui sont intéressantes effectivement.
Est-ce que vous l'ouvrez à la critique, votre traduction ?
Oui, tout à fait.
Et aux commentaires ?
Les commentaires sont ouverts, que ce soit sur le site ou sur Facebook ou sur Twitter. Il y a régulièrement d'ailleurs des interventions en ce sens-là, en me disant « Ah oui, mais tel ou tel passage, là, ça va pas. Tel ou tel passage, moi, j'aurais plutôt fait comme ci, comme ça. » Et il n'y a pas vraiment de sentiment d'œuvre finie, c'est-à-dire que c'est une œuvre qui peut être toujours modifiée. Donc voilà, on ne s'exclut pas de revenir 3 semaines, 1 mois, 2 ans après la publication d'un passage pour revenir derrière et pour modifier telle ou telle chose. MC can't take the music back, using turntables with the back and forth scratch, selling million records, so there's no turning back, but we still maintain our appetite to write. Niggas writing is cruddy, but they label cruddy grimy. No excuse, writing rhymes off key, untimely, untimely. From champagne sips to fancy whips, thuggism gun clapping and bimps with fake tits, like an actual fact. I ain't hating on that. Being raised in the hood, don't attach ghetto to black. Yo, my wise ways and actions come right and exact. Yo, people got you writing fragments, they better come and get you. I clap with this number 2 for sure, it's gonna lift you. The words I be writing becoming smoother than water. Me with the pencil, nigga, I warned you. When I shoot this pen, I have your body wide open. Why did I have to do it? He asked for it, his man saw it, so it don't mean jack to me. Ghostwriting is dead, and that's how it's supposed to be. Check this out, so check me out now. Your knowledge ain't going out, be your ignorant is dead. Broke out my crib for my rhymes, hit Jay the same way, but that's okay. I got a ride that's bad, similar to the one that Moses had. He parsed the Red Sea while I move you mentally, but before all of that, it starts spiritually. I'm the true one living, me living true is evident, and my hunger to put words on paper is permanent. MC can't take the music back, using turntables with the back and forth scratch, selling million records, sells the single, turn it back, but we still maintain our appetite to write. I do the till I know enough to run my mouth and spit on beat, always all wise to the hits, your eyes amazed but not surprised to understand how Jay can take command over supply and demand, making me in demand. My supply never run dry, I am the man. One mic in my hand still kill 2 birds in the bush, one lands. I formulate a plan that comes together better than one, orchestrated in the 18 band. Since 18 candles, I've been writing songs that your ears can't handle. Flow so ridiculous, you think I just ramble, but nah, it's just my words are sorta crystal clear, fluid, symbolic to water. Got so many lines, I order flow westbound from Hawaii to California. In other words, around the earth, I drown in verse for words that astound. They worth a pound or 2, I transfer that for pence to exchange for dollars, making twice as much sense. My intent to invent righteous content, to inspire minds to find peace like mine. Sight the blind to recognize the shine, better than the flashlight in a diamond mine. As for my appetite to rhyme, my hunger multiplied by wife and kids, so I hustle that hard like the god I am. Never focus too hard on what the next man did. I do the till I know enough to run my mouth and spit on beat, always all wise to the hits, your eyes amazed but not surprised that I still maintain my appetite to write. What?
Vous écoutez France Culture, Les Nouvelles Vagues par Maïlys Bessery.
Appetite to Write par Yamos Marad. Appetite to Write, c'est parfait pour parler de James Joyce. Pour parler de technologie et d'écriture en ligne, une des questions qui se pose, c'est le rapport à l'autre, le rapport au lecteur, le rapport au commentateur, le rapport au critique. Il y a cette question, Oriane de Sélini, du partage. Écrire en ligne, c'est souvent mettre en partage ou partager un texte. Ça crée un rapport un peu étrange, à la fois d'intimité affichée, de dévoilement, mais aussi de possibilité d'interaction avec le lecteur et avec l'autre.
Oui, et je pense que effectivement c'est toute la question du rapport à l'autre qui est en jeu et qui n'est pas simple, parce que donner accès à l'autre, à ses textes, le faire volontairement, l'assumer, c'est une chose. Recevoir la critique, recevoir la critique ou d'ailleurs l'éloge, hein, c'en est encore une autre. Et c'est compliqué de parler de manière très très générale évidemment, mais dans le travail que un certain nombre d'auteurs font sur Internet, reste la question de la distance à chercher, à trouver, surtout à trouver vis-à-vis des lecteurs, pour finalement recueillir le fruit de ces commentaires quand on peut en faire quelque chose et les évincer ou je sais pas les mettre à distance quand ils font mal ou quand, et un certain nombre beaucoup d'auteurs peuvent vivre de manière compliquée ce rapport justement à l'autre alors même qu'ils le recherchent, enfin c'est très paradoxal.
C'est la question de l'exposition et de la modération. qui se posent en ligne. Il y a une autre question qui est traversée par cette exposition sur Internet des écrivains, en tout cas de ceux qui écrivent sur Internet, c'est la question des pseudos ou des masques. Justement, certains oui. écrivains choisissent, vous avez choisi, Guillaume Bissac, d'écrire plutôt sous votre vrai nom.
Non,
mais en fait, pas toujours.
Ce n'est pas mon
bah, votre nom maintenant, il est vu.
C'est un pseudonyme, mais
ah, ce n'est pas votre vrai nom.
Ce n'est pas mon vrai nom.
Ah, donc là, on l'apprend.
C'est un scoop. mais oui, il y a possibilité effectivement d'avoir d'autres identités et ça peut être salutaire, c'est-à-dire que moi, j'ai parfois tendance à me dire bon. Voilà, on est allé au bout de ce qu'on avait à faire avec cette identité-là. Peut-être qu'il serait temps de développer autre chose avec une autre, avec un autre masque, justement, puisque voilà, c'est assez facile d'expérimenter ça et c'est assez facile d'ouvrir un blog anonyme sans le propulser, par exemple, sur ses comptes Facebook et Twitter et de d'écrire de façon complètement
caché.
Éloigné en tout cas de sa propre persona habituelle.
Mais là, on ne fait que renouer avec une tradition littéraire très très ancienne.
Oui, mais je pense qu'il n'y a rien de fondamentalement inventé là-dedans. Hein. On reprend des choses effectivement qui ont déjà été faites. Il n'y a pas vraiment en fait d'opposition entre le monde du papier d'un côté, en tout cas le monde de l'imprimé d'un côté, le monde numérique de l'autre. Il y a une prolongation un prolongement plutôt d'usage qui existait déjà.
C'est l'hybridation dont vous nous parlez, Henriette Desseigny, mais il y a quand même des particularités puisque vous nous parlez de cette question de la distance avec le lecteur. Il n'y a plus vraiment de filtre entre l'auteur et ses lecteurs et c'est des lecteurs qui vont être actifs et qui vont éventuellement intervenir, commenter, critiquer. À partir du moment où l'écrivain devient son propre éditeur, à ce moment-là, là, c'est une forme de révolution qu'est la révolution numérique, en ce sens.
Oui, parce que effectivement, il a un autre regard qui est pas forcément d'un regard d'expert sur ce qu'il écrit. Et il faut effectivement savoir gérer cette relation à l'autre et ce flux de commentaires. Et enfin, pour reprendre ce que vous disiez juste avant, avancer masqué permet de mettre de la distance, de se ménager une porte de sortie, de faire des expériences diverses littéraires, de tester des choses tout simplement. Simplement en se ménageant, en contrôlant, en fait. C'est la question un petit peu du contrôle, en contrôlant le rapport à l'écriture et, de fait, le rapport à l'autre. Et ça, c'est effectivement très, très, très ancien.
Guillaume Bissac, je continue quand même de vous appeler Guillaume Bissac, vous qui êtes aussi éditeur en ligne, qu'est-ce que vous avez pu noter comme particularité, d'abord dans la publication de vos propres textes, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que d'écrire et de savoir que la manière dont on va mettre en scène son texte va avoir une influence sur ses lecteurs, et quel travail vous faites, vous, avec les auteurs que vous publiez ?
Alors, donc juste une précision, Publinet est né et éditeur numérique, mais maintenant fait du papier depuis plusieurs années. C'est-à-dire que voilà, ce que je disais tout à l'heure sur le fait de ne pas opposer un monde à l'autre, on le pratique vraiment au quotidien. C'est-à-dire qu'on a choisi de ne pas jouer l'opposition des supports, mais vraiment la complémentarité des supports. Les textes qui nous intéressent et la façon dont on les travaille, c'est qu'on va vraiment aller regarder déjà ce qui s'écrit sur le web, parce que c'est de là qu'on vient, c'est là qu'on écrit, c'est là notre terrain quelque part, et qu'il y a des choses vraiment vraiment fascinantes et remarquables qui s'écrivent là et qui sont pas forcément jugées intéressantes par des éditeurs, on va dire, plus traditionnels.
En raison quoi ? De la forme ? Parce que ça va être trop fragmenté ? Parce que ça ne va correspondre à aucun genre, à aucun format ?
Par exemple, oui, il y a la question de la forme, le fait effectivement que c'est souvent des écritures fragmentaires, c'est-à-dire que le genre veut beaucoup ça, c'est-à-dire qu'on va être sur des matériaux où les auteurs vont publier un court texte, un paragraphe, le lendemain un autre paragraphe, etc. Et au bout de 6 mois, ça va faire un texte beaucoup plus plus long, mais qui va quand même garder cette forme-là un peu parcellaire.
Et vous, ça a été votre cas, puisque vous avez écrit d'un côté ce journal, il y a de l'autre ces traductions, et puis de l'autre côté, il y a eu carrément des romans.
Oui, oui, oui. Bah, c'est vrai que j'utilise beaucoup cette contrainte-là, c'est-à-dire la contrainte d'écriture chaque jour, qui est une contrainte très forte et extrêmement formatrice quand on écrit et surtout quand on commence à écrire. C'est-à-dire que voilà, il faut avoir en tout cas pour moi, cette répétition-là, c'est un effort prolongé. Et effectivement, on s'en rend pas forcément compte, mais on commence à écrire quelque chose par petits bouts chaque jour, et on relève la tête 2 ans après, et on a un roman assez conséquent. Donc c'est des pratiques qui vont être assez sur la durée, qui vont beaucoup jouer sur la contrainte. Après, l'enjeu pour nous en tant qu'éditeur, ça va être de comment on fait pour prendre ce matériau-là et le métamorphoser pour que ça devienne un livre. Parce qu'on ne va pas simplement récupérer les textes, les mettre dans une machine qui va nous sortir des formats.
Il y a un processus particulier qui est lié au fait d'être en ligne et d'un livre destiné à être en ligne.
Bah, il y a un processus en tout cas particulier de retravail de ce texte-là. C'est-à-dire qu'il va falloir reprendre une partie avec l'auteur de l'écriture pour qu'on puisse arriver à en faire quelque chose d'autre. Ce ne sera pas forcément exactement la même chose que c'était en ligne, mais ce sera un livre prévu pour une lecture dense, pour une lecture autre que celle de la lecture sur le web.
On va écouter un extrait de votre roman Transoxiane.
Bien sûr, j'étais en avance. Très près de l'interphone, ma voix sentait l'haleine. C'est Misère Balcaille, on s'est parlé au téléphone. Et la mère de la fille disparue m'a ouvert. 16e étage, l'ascenseur est en panne. De l'autre côté de la porte du hall, il y avait une autre série de portes fendues et 1000 rangées de boîtes aux lettres identiques. Des adolescents en survêtement étaient assis sur les marches d'escalier autour de la cabine d'ascenseur et ils crachaient par terre. Ça sentait la drogue mal coupée, la sueur synthétique et la pornographie. Ils se prêtaient leurs téléphones en les faisant circuler de main en main et ils se sont écartés des marches pour me laisser passer. L'un d'entre eux a regardé mes seins lourds comme on regarde un insecte prisonnier dans sa main avant qu'il ne s'envole. Et 16 étages plus haut, à bout de souffle, le cœur dans la mâchoire, je me suis retrouvé à frapper la porte 8C d'une certaine femme aux yeux désespérés. La mère de la fille disparue avait des rides au coin des paupières et des lèvres gercées. J'ai vite compris, à cause de ses pupilles, qu'elle ne s'attendait pas à découvrir une femme de ma taille et de ma corpulence. Sans doute avait-elle imaginé une femme petite et maigre, emmitouflée sous des couches de vêtements en peau, des nattes pendantes de part et d'autre du visage et des yeux vaporeux. Bref, le portrait type d'une chamane chez ceux qui ne savent pas ce que recouvre exactement ce mot. En réalité, j'étais grande, rectangulaire, des cheveux courts très gris et des yeux turcs presque bridés. Je me suis essuyé la sueur de la nuque avec ma manche. Elle a hésité avant de me laisser rentrer. Elle n'avait pas de quoi payer et de toute façon, elle ne croyait pas à mes histoires d'inframonde, m'a-t-elle dit.
Des extraits de Transoxiane lus par Eric Schultes. Oriane de Sénie, on a justement ce sentiment que, outre les questions économiques qui ne sont pas négligeables, la question de l'édition en ligne pose aussi la question, en tout cas renoue avec un mythe qui est celui de l'autonomie en littérature. L'idée qu'un auteur pourrait tout faire lui-même, écrire, faire connaître son texte, le mettre en page, recueillir les propos de son public.
Oui, mais j'allais dire c'est un mythe. Enfin, je pense que effectivement il y a ce vertige en fait qu'offre potentiellement l'outil et néanmoins je pense que les auteurs ont souvent besoin d'un regard extérieur, surtout d'un regard expert, celui d'un éditeur ou celui de lecteurs qui vont avoir un regard peut-être acéré, enfin pour faire avancer l'écriture. Donc il y a le vertige de la technologique et médiatique, et puis il y a la réalité qui est effectivement qu'on a toujours besoin d'un autre regard sur ce qui est écrit, et c'est vrai que les lecteurs qu'on peut approcher par le biais d'Internet fournissent pour un certain nombre d'auteurs beaucoup de beaucoup d'aide. Je pense là par exemple à des plateformes sur Wattpad où des jeunes auteurs vont pouvoir avoir des avis d'autres jeunes auteurs et lecteurs.
Ah, il y a des communautés, hein, Guillaume Fissac, vous travaillez avec ces communautés d'écrivains. Il y a une espèce de travail de coworking entre écrivains ou en tout cas de regard littéraire les uns sur les autres.
Oui, complètement. Bah, c'est vrai qu'il y a une autre forme de rapport à l'autre, une autre forme de communauté qui se développe par le biais des réseaux. Alors effectivement, ça peut prendre la forme d'auteurs qui écrivent des textes qui sont liés ou qui ont des échos les uns avec les autres, qui vont se lire les uns les autres. C'est aussi extrêmement important, je pense en tout cas pour des jeunes auteurs ou des jeunes lecteurs qui ont plus du tout cette image de l'auteur qu'on voit dans une relation verticale avec ses lecteurs, c'est-à-dire qu'il y a une possibilité d'échanger avec lui ou elle.
Comme avant sur les salons, lors de dédicaces, dans les librairies.
Oui, mais là, c'est vraiment les gens sont sur un pied d'égalité sur quand on parle à quelqu'un sur Twitter, que ce soit l'auteur d'un livre qu'on apprécie ou quelqu'un qu'on connaît pas ou un ami ou autre, on est sur le même pied d'égalité. Donc on a possibilité de dialoguer et on a aussi possibilité que tout simplement un auteur qu'on apprécie puisse lire ce qu'on va proposer en ligne. Après, il y a effectivement d'autres formes de communautés qui peuvent se mettre en place. On parlait de Wattpad, je crois que ça existait aussi avant Wattpad sous la forme de forum de discussion où là effectivement pour la plupart sont des jeunes auteurs ont la possibilité d'avoir des lecteurs, d'avoir des commentaires, d'avoir des conseils qu'ils n'auraient pas s'ils restaient simplement de leur côté.
J'ai fait appel à des échanges de services entre auteurs pour se relire déjà, pour se corriger. J'ai travaillé avec des correcteurs qui sont professionnels, qui sont aussi auteurs, mais que j'ai rencontrés justement par l'intermédiaire de ces différents groupes. Ça, ce sont des choses qui existent et je pense qu'on progresse justement avec les autres. En fait, l'écrivain tout seul dans sa tour d'ivoire, au bout d'un moment, je pense qu'on stagne, c'est pas très bon. Moi, j'écris depuis très longtemps, j'ai toujours aimé écrire, mais j'ai toujours fait en cachette. Et j'ai mis 15-20 ans avant de vouloir partager mes textes avec les autres parce que je me sentais pas prêt et parce que j'en avais pas envie d'ailleurs. Je pense qu'il faut faire la différence entre écrire pour soi et puis écrire pour être lu. Si on écrit pour être lu, forcément ça exige une certaine qualité parce qu'il faut un minimum de respect envers ceux qui vont lire.
Oriane de Cellini, ce que raconte l'auteur en ligne Charlie Bregman, c'est que justement, peut-être que Internet permet de renouer avec cette notion de communauté d'auteurs, et de communion avec un public ou avec des publics, avec le risque quand même que l'œuvre apparaisse trop vite, le risque de l'instantanéité d'une œuvre inaboutie, peut-être qui ne serait pas à la hauteur de ce qu'on attend d'un manuscrit.
Oui, alors appuyer sur le bouton entrée, ça permet effectivement de publier très rapidement et ça crée un certain vertige. Certains auteurs en parlent d'ailleurs de cet effet de la publication immédiate, mais on peut quand même reprendre. On peut quand même reprendre le texte. Le texte est publié, mais il peut être pris, il peut être éventuellement remanié notamment dans toutes ces communautés d'auteurs, il y a quand même, je pense, cette culture que un texte, c'est du travail et que même s'il est mis en ligne, dès lors qu'il n'est pas, je dirais, estampillé par une instance éditoriale, il peut être retravaillé. Et il y a de plus en plus peut-être cette culture qu'un texte peut être proposé, puis retravaillé, puis repris. Et
qu'il ne serait jamais définitif.
Peut-être pas jamais, mais en tout cas soumis à effectivement différentes étapes de travail. Et vous parliez tout à l'heure des brouillons. Effectivement, on a beaucoup dit que Internet c'était la dématérialisation, qu'on n'avait plus de traces antérieures. Et en fait, il y a le brouillon en quelque sorte revient en force sur Internet, justement pour montrer que l'écriture c'est souvent du travail et c'est de la biffure, c'est de la rature, que ce soit avec un clavier ou que ce soit avec un écran, un stylo.
Guillaume Bissac, il y a cette idée justement qu'il y a une idée aussi numérique, comme celle du Drive par exemple, à savoir le livre, ce serait le dernier brouillon, ou en tout cas la dernière trace enregistrée.
Oui, alors en fait oui et non, parce qu'on se rend compte que on a possibilité ensuite de d'avoir une réédition d'un livre qui sera amendé ou qui vont on va avoir des passages en plus. Donc il n'y a pas, je crois que on est vraiment dans un monde maintenant en flux tendu, et notamment la question de l'impression maintenant des livres papier, où on peut se démarquer un petit peu des contraintes, notamment des contraintes de stock, et où on va permettre de pas avoir de version définitive, de pouvoir avoir un texte qui est liquide quelque part et qui va continuer à se modifier, à s'amender, à se métamorphoser.
Et c'est l'heure, comme tous les jours, de nos histoires, notre histoire de fin d'émission, les 5 fois, et aujourd'hui c'est les cahiers d'Alexis Trinquet que nous allons entendre.
Le plus beau témoignage qu'il m'ait donné de trouver, je dois dire que je l'ai rencontré par hasard en cherchant autre chose. C'était à Bobigny, où sont conservées aujourd'hui les archives du Parti communiste français. Dans ces archives, il y a des boîtes consacrées à un communiste qui était par ailleurs un ancien communard, Zéphirin Camélina. Et donc je fouillais dans les papiers de Camélina. Et au fond d'une boîte, il y avait une documentation sur la commune, alors qui avait l'air tout à fait banal. Mais dans ce dossier se trouvaient d'étranges cahiers, dont un cahier totalement artisanal qui avait été réalisé à partir de formulaires de l'administration pénitentiaire cousus ensemble. Nous sommes en Nouvelle-Calédonie, dans les années 1870, là-bas tout y est rare, y compris et surtout le papier, et en fait nous avons un communard qui a été envoyé là-bas au bagne, et qui veut faire savoir ce qui lui est arrivé. Donc ça n'est pas un récit sur la commune, il en parle très peu, quasiment pas, c'est un récit sur ce qui suit. Alexis Trinquet était cordonnier à Belleville, communard, il a visiblement pris part à l'exécution d'un sergent de ville, c'est-à-dire d'un policier. Il échappe au peloton d'exécution, mais il est condamné à la transportation et aux travaux forcés à perpétuité. Et là, il va voir et vivre vraiment des atrocités, des horreurs, parce que les gardiens ont absolument tout pouvoir, y compris de vie et de mort, sur les prisonniers qui leur sont confiés. Et lui, qui est une forte tête, un cordonnier, ce qu'on appelait un bouif, quelqu'un qui pense mal, quelqu'un qui est mauvaise tête, eh bien, il va essayer de résister. Et une des formes de résistance, finalement, ce sera l'écriture. C'est-à-dire qu'à la fin de sa captivité, toutes ces exécutions arbitraires, ces supplices, ces abominations qu'il a vues s'accomplir, il les consigne sur ses cahiers qu'il a fabriqués lui-même. À Paris, où on ne l'a pas oublié, il a laissé une femme, un fils. On va les lire conseiller municipal, alors qu'il est encore au bagne, aux antipodes. Et donc, il revient au moment de l'amnistie des communards. Il va revoir sa famille, c'est un peu de temps après. Mais il a transporté avec lui ses cahiers. Il en a remis une partie au net. Il avait sans doute l'intention d'en faire un livre. Et quelques extraits seulement sont parus dans la presse de son vivant, de façon assez tronqué d'ailleurs. J'ai eu la chance de retrouver le manuscrit original et de le publier in extenso. C'est un texte extraordinaire. C'est pas du tout un texte d'écrivain. Lorsqu'il est confronté à un paysage, au fond, il n'y a pas d'image, il n'y a pas de métaphore. C'est très plat. Il dit simplement que c'est beau. En revanche, lorsqu'il s'agit d'un attentat à la dignité humaine, à la sienne ou à celle de ses compagnons de chaîne, eh bien là, Trinquet est très éloquent, très touchant. C'est un texte de combat, mais c'est un texte d'une très très grande humanité. Et finalement, c'était touchant aussi de penser que ce texte qui avait dormi pendant un siècle et demi dans des boîtes, eh bien, a pu finalement, conformément à la volonté de son auteur, et bien longtemps après, devenir un livre et sortir en librairie.
« pas de veine, plus de soucis. Cayenne, c'est fini. Pas de lettres de mon ami. Ce n'est peut-être qu'un oubli. Cayenne, c'est fini. Il y en a qui s'aiment jusqu'au martyr. Où il y a de la chaîne, il n'y a pas de plaisir. Les matons m'ont maté. J'ai plus de quoi me relever. Cayenne, bon, 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 bon. Cayenne, bon, 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 bon. J'ai compris. Cayenne, bon, 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 bon. C'est fini, Cayenne. Depuis le temps que j'attends ma remise de peine, y a de la gangrène dans mes souvenirs. Vaut mieux en finir quand ça traîne. J'ai pas envie de moisir ici. Cayenne, c'est fini. Cayenne, c'est bien fini.
Allez les mecs, au boulot!
Cayenne, c'est fini. J'emmène loin d'ici la mauvaise graine de mes soucis qui a fleuri à Cayenne. Cayenne, captivité pas bon.
Cayenne,
tentative d'évasion.
Cayenne,
la prison quadrillée.
Cayenne,
niquée par les képis.
Cayenne,
des matons, des catis.
Cayenne,
quasiment déphasé.
Cayenne,
plaidoirie kamikaze.
Cayenne,
l'avocat dégoûté.
Cayenne,
lui manquait quelques cases.
Cayenne,
système pénitentiaire.
Cayenne,
condamné l'accusé.
Cayenne,
à purger l'eau de peine. Casser les cailloux.
C'était Cayenne, c'est bien fini, de Jacques Higelin, et Les Nouvelles Vagues, c'est bientôt fini aussi. Merci à vous, Oriane de Cellini et Guillaume Bissac.
Merci. Merci.
Je rappelle le nom de Publi.net, la coopérative d'auteurs et d'éditions numériques, dont vous êtes directeur éditorial, entre autres. Pour réécouter et podcaster Les Nouvelles Vagues, il suffit de vous rendre sur le site franceculture.fr. Vous pouvez également suivre nos programmes sur Twitter, @mbesserie, et sur la page Facebook de l'émission. Nous serons ce vendredi en direct et en public du Salon du Livre à 14h pour la carte blanche de l'écrivain Kaoutar Archi. En attendant, demain nous parlerons d'écrire hors de la page à l'occasion du festival Concordance et du spectacle Vois-tu celle-là qui s'enfuit. Thank you.